me a cigarette then. Give me a cigarette.
Salut la compagnie et bienvenue sur le Lloydcast épisode 8. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir dans mes remarquables une femme. Elle est auteure, metteur en scène, comédienne, et lorsque j'ai rencontré son univers, j'ai cru avoir affaire à une médium. Tu vois, comme quelqu'un qui aurait creusé dans ma tête malade et qu'on aurait extirpé tout plein de choses pour me les mettre en scène. Parmi les artistes rock que je connais, c'est la punk. Mais pas un punk nihiliste, hein, non, un punk romantique, flirtant tout autant avec ce que le romantisme a d'autodestructeur dans sa définition allemande, mais aussi avec ce que le romantisme plus actuel voudrait que le crapaud se transforme en prince. Mais ce prince, chez elle, boit des bières, porte des fringues trop grandes pour lui, a des cheveux ébouriffés et sales, il aime les tatouages et n'est jamais contre un peu de drogue festive, ou pas festive du tout d'ailleurs. Je la considère comme l'une des meilleures de sa génération, si ce n'est la meilleure. Et je lui souhaite la bienvenue ici, Fanny Caronco, bonjour.
Bonjour.
Donc, je t'ai un petit peu présenté, alors j'ai dit auteur, metteur en scène, et en lisant ton dossier de presse, il y a autrice, metteuse en scène.
Je trouve ça joli, autrice, parce que en fait, c'est le vrai mot qui existait jusqu'au, je vais dire des conneries peut-être, mais 18e ou 19e siècle, et on l'a supprimé.
Alors moi, j'essaye de te présenter de manière moins subjective, je vais dire. Donc tu es autrice, metteuse en scène, tu as 27 ans. Alors comme tous mes invités, tu as 27 ans, ils ont tous 27 ans, c'est comme ça, je cherche pas. Nous on s'est rencontrés à Avignon il y a quelques années où tu jouais ton spectacle Incurable. Alors juste, je donne rapidement le contexte. Je me promenais dans les rues d'Avignon, je crois que j'avais mon spectacle qui s'appelait Désaccordé à l'époque. Et ouais. je vois ton affiche Incurable, déjà qui n'était pas dans le même sens que les autres affiches. Et il y avait l'ombre de Robert Smith sur cette affiche, ouais. Si mes souvenirs sont bons. Et je me suis dit, oh attends, mais Incurable. Voilà, il y avait Cure en plein milieu de ça. Je me dis, mais il faut absolument que j'aille voir ça. Et lorsque j'y suis allé, j'ai pris plusieurs claques dans ma tête. J'ai pris une claque dans la qualité de ton texte. J'ai pris une claque aussi, je suis tombé fou amoureux de ta comédienne à l'époque, Aurèle d'Auverchin, pour la citer. Puisqu'ensuite je l'ai fait travailler sur 2-3 autres de mes pièces que j'ai trouvé absolument fantastiques. Et toi, ta personnalité que j'ai trouvé absolument géniale, et en tout cas tout ce que tu écris m'a exceptionnellement touché à tel point que j'ai fini par dire tu es mon auteur préféré.
C'est super gentil, merci beaucoup, ça me fait plaisir, c'est cool. C'est vrai que Cure pour moi c'est mon adolescence, donc ça permet de parler de ça. C'est le catalyseur, enfin le truc qui fait la caisse de résonance, c'est sûr, mais les sentiments que j'essaye de mettre en scène, ils sont personnels. Mais en fait, il y a besoin de quelque chose comme Cure pour réussir à le sortir.
T'avais pas peur d'enfermer ou de tout de suite dire à des spectateurs, je vais parler de quelque chose, soit que vous connaissez ou soit que vous connaissez pas du tout, parce que Cure, malgré tout, ça reste une niche assez, même si mondialement c'est connu, il y a quand même toute une partie du public qui ne connaît pas ou qui n'aime pas.
Ouais, il y a plus de gens qui n'aiment pas que de gens qui ne connaissent pas, en fait, je me suis rendu compte. Parce que notre génération, donc, de 27 ans, connaît forcément. Mais après, il y en a plein qui n'aiment pas parce que ça a été souvent ridiculisé aussi. Enfin, voilà, avec comme ils sont assis dans la caricature, avec les cheveux, avec tout ça. C'est tellement ciblé années 80, début 90, que forcément, il y a plein de gens qui disent « Oh là là, non !» Mais il y a des gens qui sont venus, et effectivement, ça parle pas que de ça, mais ça permet de placer aussi dans une époque où, même si eux étaient pas fans de Cure, bah, ils ont vécu les mêmes choses, quoi, les booms, puis les rêves, et puis voilà, d'une époque, et puis les sentiments qu'il y a dans les chansons de Cure, c'est des sentiments qui sont, enfin ce qu'ils racontent, que j'ai essayé de raconter moi aussi, c'est ça parle à tout le monde.
Il y a une première tradition dans le podcast, c'est de te demander qu'est-ce que tu bois, et de manière totalement virtuelle, puisqu'on est via Skype, qu'est-ce qui te ferait plaisir à boire maintenant tout de suite ?
Un rosé piscine.
Un rosé piscine, d'accord. C'est ta poisson préférée ?
Bah, ça y est, c'est le printemps, il commence à faire beau, c'est ma boisson préférée de saison.
Alors, en tant qu'autrice, j'ai regardé, pour préparer cet épisode, alors tu vas me dire que je me trompe peut-être, mais j'ai cherché tes textes et je ne les ai pas trouvés. Est-ce que c'est normal ?
Ouais, ils ne sont pas édités.
C'est vrai qu'on cherche tous, nous, à éditer nos pièces. Pourquoi, toi, tu n'as pas édité tes tes pièces, est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est un oubli?
C'est entre le choix et l'oubli et le manque de confiance, en fait. J'ai dû envoyer à l'occasion un texte comme ça, mais je me suis jamais. Je me bats pour tellement de choses de mettre en scène. Enfin, je préfère mettre de l'énergie à mettre en scène mes pièces plutôt que mettre de l'énergie à essayer de trouver un éditeur. Et puis, j'ai pas envie qu'on touche à mon texte aussi. Je me dis, si je le fais éditer, il va falloir que je retouche des trucs, tout ça. Et après, j'aimerais bien hein, qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise, allez, Fanny, je prends tous tes textes et j'y touche pas et tu les édites.
Mais est-ce que tu crois que les éditeurs touchent toujours les textes des pièces? Moi, personnellement, pas par expérience purement personnelle, hein, j'ai édité 17 pièces chez 4 éditeurs différents et aucun ne m'a jamais demandé de retoucher quoi que ce soit. On a pu me dire à des moments, tiens, peut-être qu'à tel endroit, c'est un peu long, machin, tout ça. Mais c'est vrai que je m'en rendais compte tout seul, vu que les pièces qui étaient éditées dans leur grande globalité, c'était quand même des pièces qui étaient jouées, donc je sentais aussi sur le terrain que c'était trop long.
Je sais pas, c'est mon côté, ça, voilà, peut-être un reste de mon côté punk, quoi.
Est-ce que tu as déjà vu tes textes montés par d'autres metteurs en scène?
Non, par contre, c'est mes élèves, parce que je donne des cours à des bacs théâtre, qui eux ont monté des extraits d'Incurables pour un petit festival dans leur lycée. C'est chouette, parce qu'en plus c'était mes élèves et ils avaient 16-17 ans, donc c'était super touchante, je trouvais, de voir ça.
J'ai l'impression que toi comme moi, on accorde beaucoup d'importance au titre.
Ah bah oui. Enfin, c'est presque ce qu'il y a de plus important, ouais. Le titre et la dernière phrase.
Tu choisis ton titre, moi par exemple, 80% du temps, je l'ai expliqué dans une résonance récemment, je choisis d'abord le titre avant d'écrire la pièce.
Moi, ça a mis parcours. Et après, du coup, le titre réoriente la fin de l'écriture. Mais ouais, je commence à écrire. Allez, on va dire un tiers. Et je trouve le titre. Souvent, c'est des titres de chansons que je modifie un peu ou une phrase du texte. Et après, une fois que j'ai le titre, je me dis, bon, ben maintenant que j'ai ce titre-là, j'ai commencé comme ça, faut que je décale un peu pour que ça colle au titre.
Moi, je trouve que dans les titres, il y en a trois que j'aime beaucoup chez toi. Bon, évidemment, Incurable, qui est simple, mais qui en même temps est un peu recherché dans ce qu'il veut dire. J'aime beaucoup donc le pensez-vous pouvoir, s'il vous plaît, nous dire d'aller nous faire foutre, c'est ça?
Pensez-vous pouvoir, s'il vous plaît, nous répondre d'aller nous faire foutre?
Voilà, ça.
C'était très sympa à Avignon quand on tractait là-dessus.
Ouais. Et il suffit d'un train pour pleurer.
Oui, bah alors il suffit d'un train pour pleurer. En fait, c'est une chanson de Bob Dylan. Donc en anglais, je dirais pas en anglais, mais en gros, il en faut beaucoup pour rire, mais il suffit d'un train pour pleurer. C'est un spectacle que j'ai écrit en grande partie dans le train. Et ça parle de train aussi parce que c'est ma deuxième passion après Cure, c'est les trains. Donc
Tu veux dire que tu as des trains, des mini-trains chez toi, tout ça, tu joues avec?
non, mais j'habite peut-être que tu vas entendre là, j'habite à, je sais pas, 30 mètres de la voie ferrée. Donc j'entends les slogans de, enfin les slogans, les jingles SNCF et les trains qui passent et j'aime bien.
Enfin, les slogans, en ce moment, tu peux les entendre. Il y a des slogans de manif qui doivent passer de temps à autre aussi. Tu touches à tout en tant qu'autrice, tu touches même au spectacle pour enfants.
En fait, je veux faire du spectacle pour enfants, mais pas pour les enfants. En gros, ça me permet de faire un spectacle pour enfants. Je me sens beaucoup plus libre. En fait, je m'amuse parce que quand j'écris, ça m'oblige à pas être complètement dans un truc forcément triste, parce que enfin c'est pas triste ce que j'écris, mais c'est vachement dans l'introspection, dans la dans et là du coup, même si j'essaye de garder ça, j'essaye de le prendre avec plus de dérision et je me moque beaucoup plus de moi-même dans mes spectacles pour enfants que dans mes spectacles adultes, même s'il y a quand même une part d'autodérision, je pense, dans ce que j'écris pour les grands. Et puis les enfants, en plus, j'adore parce que quand ça marche pas, bah, tu le sais tout de suite, quoi. T'as pas de, T'as pas de faux semblants, de faux trucs. Les gamins, ils se fait chier. Hein. Et il faut pas que je dise que je fasse chier dans un spectacle pour enfants. Ça aussi, c'est les contraintes aussi, c'est d'écrire sans dire de gros mots.
Et bah justement, c'est Hansel et Gretel que tu as adapté pour les enfants.
Ouais, j'ai adapté Hansel et Gretel, et donc ça s'appelait pareil avec un titre à rallonge, Hansel et Gretel ou pourquoi j'ai arrêté de manger des enfants. Et l'idée, c'est la sorcière, donc qui s'appelle Betty, qui a une réunion de mangeurs d'enfants anonymes parce qu'elle a arrêté. Et en fait, elle raconte quoi qu'elle a arrêté justement à cause de sa mésaventure avec Hansel et Gretel. Parce que cette pauvre sorcière, en vrai, quand même, enfin, c'est absolument affreux. Ils la mettent la tête dans le four et ils partent avec son argent. C'est assez violent, en fait. Et du coup, voilà, c'est essayer de décaler, d'inverser le rapport où la victime, c'est vraiment la sorcière.
Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture alors?
Ben, je m'ennuyais. J'ai pas. Enfin, c'est. Voilà, ça y est, vas-y, la psychanalyse. Enfin, en fait, non, j'ai toujours. Quand j'étais ado, j'avais pas d'amis.
Seulement, seulement des, seulement des amis imaginaires.
Non, j'avais pas d'amis. Enfin, j'avais envie de parler de moi, qu'il y avait personne pour m'écouter, alors ben, j'ai commencé à écrire. Et après, j'ai retrouvé des trucs où tu dis, mais c'est triste en fait, c'est terrible. Un jour, je les ressortirai, mais bon, c'est. Bon, voilà, donc j'écrivais comme ça, et puis au bout d'un. Quand j'ai fait du théâtre, je me suis dit que peut-être que ce que j'écrivais, parce que j'avais pas d'amis, je pouvais le faire partager à des gens en mettant en scène. Voilà, et puis j'aime bien. Du coup, j'aime bien raconter, parce que ce que j'écris, c'est plus ou moins autobiographique, et j'aime bien laisser le doute de qu'est-ce qui est autobiographique ou pas.
T'as commencé le théâtre en tant que comédienne, c'est ça? T'as pris donc des cours, tu voulais devenir comédienne?
Ouais, je sais pas trop. En fait, à l'époque, je pense que bah, comme tout le monde, hein, j'étais en cours de théâtre, je voulais jouer à Chaillot, enfin bon, voilà. Mais après, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans mes déménagements un truc d'orientation qu'on fait au lycée. Et dans ce truc d'orientation, il y avait quel serait votre métier rêvé? Et c'était metteur en scène. Et je me souvenais pas du tout de ça, en fait. Donc apparemment, c'est un truc que je veux faire depuis longtemps. Mais je me souviens pas.
Et justement, qu'est-ce qui fait que d'un coup, voilà, t'es parti pour faire comédienne, tu commences à prendre tes textes et les faire lire ou travailler dessus, et comment t'en arrives donc à la mise en scène? Est-ce que c'était un mouvement évident en fait pour toi?
Ouais, parce que moi je pense que, enfin, c'est je trouve je juge pas, enfin c'est très bien qu'il y ait toute forme de mise en scène, mais moi j'aime bien l'idée de la création complète, quoi, de commencer par le texte et que la mise en scène pour moi c'est une continuité aussi. Enfin, quand j'écris, je pense à la mise en scène et alors après, ça peut parfois être chiant des metteurs en scène qui mettent en scène leur propre texte parce qu'effectivement, il n'y a pas de recul et j'ai conscience de ça. Mais je trouve que dans le processus de création, c'est plus global, quoi. Alors en plus, quand tu joues, c'est presque de la performance, quoi.
Est-ce que c'est amusant que tu penses ça? Alors moi je pense comme toi, puisque j'ai à peu près le même parcours que toi. On a commencé à me dire, tiens, bah puisque écris les scénettes, bah tu vas jouer dedans. Et puis bah tiens, pour le coup on n'a pas de metteur en scène, donc mets en scène. Ah bah tiens, tu fais de la musique, donc tu vas faire de la musique. Et voilà, petit à petit je me suis retrouvé un petit peu au four et au moulin, y compris à vendre le pain, etc. Et pour moi ça m'a toujours semblé un peu, tu vois, un peu évident. Mais je connais beaucoup d'auteurs. Et je connais aussi beaucoup de comédiens qui ont du mal à travailler avec un auteur metteur en scène qui est aussi comédien. C'est comment tu arrives à gérer ça quand tu fais une création et quand tu es y compris sur le plateau?
Bah, j'ai réussi à le faire sur Incurable, de jouer et mettre en scène en même temps, en tant qu'un texte à moi. Mais j'étais sur une équipe formidable et on était plus en création collective que vraiment moi en mise en scène. Mais après, maintenant, j'évite de faire ça, de moi jouer avec d'autres comédiens en mettant en scène. Déjà, ça j'ai arrêté. Mais après, j'ai des gens super autour de moi qui j'ai une assistante qui maintenant joue, d'ailleurs, qui est plus mon assistante. Mais Lily s'agite, qui donne ce recul nécessaire, enfin qui me donne, qui fait mon œil, mon troisième œil.
Incurable, c'est joué combien de temps à Avignon?
Oh là là, longtemps. On a fait 2011, 2012 et 2014. Ouais, c'est ça. Trois Avignons sur 4 ans, plus des dates un peu entre-temps quand même. Pas assez, mais.
Et le spectacle aussi où tu étais seule en scène, où je t'ai vu suite à Incurable, c'était.
Il suffit d'un train pour pleurer.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Là, j'avais. C'est une metteuse en scène qui s'appelle Marion Guerrero, qui m'avait mis en scène. Et qui, elle, a son univers, en tout cas, sa scénographie, toujours, tout ce qu'elle fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours un bordel pas possible sur scène, il y en a partout. Et là, c'était super de donner mon texte à quelqu'un et que cette personne le comprenne aussi bien et que. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance parce que ça s'est très très bien passé. Et je pense que c'était pas évident pour elle aussi de me mettre en scène moi sur un texte à moi.
Et
Mais
comment tu lâches là, justement, comment tu lâches ce texte avec quelqu'un qui va te mettre en scène et peut-être que tu n'es pas totalement d'accord avec tel ou tel parti pris?
eh ben on était toujours d'accord. Non, mais c'est pour ça que je dis j'ai vraiment eu de la chance. Après, je lui ai raconté ma vie, la pauvre. J'ai fait ma psychanalyse en fait un peu. Je lui ai raconté vraiment le pourquoi ce texte, à quel moment, avant qu'on commence à répéter chaque morceau du texte, je lui ai vraiment raconté pourquoi j'avais écrit ça, qu'est-ce qui s'était passé en vrai, comment je l'avais. Donc elle avait toutes les données. Et du coup, elle a mis à sa sauce qui synthétisait bien en fait tout ce que je lui avais dit, je trouve. Donc on était vraiment sur la même longueur d'onde. Donc c'était facile. Et il n'y a jamais eu un moment. Si, il y a eu un moment où j'étais pas du tout d'accord. Parce qu'elle dit à ce moment-là, on va mettre AA. Et il y avait toute une scène où une longue scène en plus. J'étais au micro et il y avait Take On Me à fond derrière. Et je dis, mais pourquoi AA? Mais moi, je n'ai jamais écouté ça et tout. Et bon, j'ai fini par céder, bien sûr. Et au final, je trouvais que c'était un des plus beaux moments du spectacle. Alors que de moi-même, j'aurais jamais mis AA.
C'est drôle parce que tu as aussi une façon de dire que c'est autobiographique et à la fois peut-être aussi un petit peu romancé, que tu as besoin de raconter ton parcours personnel à une metteur en scène. Est-ce que d'un coup le plateau pour toi est comme un exutoire, pas autobiographique, mais pas loin?
Ah bah si, oui, en fait, oui, complètement. Bah d'ailleurs, c'est pour ça, là, en ce moment, je vais bien, donc c'est pour ça que j'écris des spectacles pour enfants.
C'est quand tu vas mal que t'écris d'autres spectacles?
Ouais, voilà. Quand il y a un besoin de déverser je sais pas, une haine ou ouais, souvent de la haine d'ailleurs, ou un malaise ou un truc. Et du coup, là, j'écris des choses plus dures, quoi. Mais là, bon, c'est des spectacles pour enfants parce que j'essaye de rigoler des choses un peu dures que j'ai pu écrire avant.
Justement, quelle est ton inspiration, que ce soit de toi ou une inspiration plus, entre guillemets, peut-être tes maîtres, les écritures qui t'inspirent, les films, les musiques, etc.
Bah alors les musiques, effectivement, ça m'inspire beaucoup, je pense que c'est clair. Donc, il y a Cure, bien sûr. Il y a les textes de Cure aussi, et les textes de TFN aussi, j'aime bien. Voilà, c'est des univers qui me parlent et qui me donnent envie de raconter d'autres choses. Après, il y a les. C'est con, hein, c'est un peu cliché, mais les paysages en train, quand je passe. Que je regarde les paysages, ça souvent ça me donne envie d'écrire des trucs. Et sinon, au niveau des maîtres, on va dire des maîtresses, je suis très très fan d'Angelika Liddell. Et cette manière qu'elle a de. Ben ouais, c'est monstrueux, quoi, de rendre sa vie monstrueuse, mais monstrueuse au bon sens du terme, quoi, où elle raconte des choses qui sont pas si extraordinaires que ça, au final, de petites souffrances de la vie quotidienne, et elle en fait une montagne, et une belle montagne.
Et elle, c'est une auteure de romans, de théâtre?
De théâtre, c'est plus proche de la performance, et elle joue ses textes aussi, elle. Et en fait, c'est d'ailleurs le seul intérêt, parce que quand elle, quand dans ses, dans ses spectacles qu'elle met en scène, quand c'est d'autres personnes qui jouent, c'est beaucoup moins intéressant. Mais la voir elle raconter, raconter ce qu'elle raconte avec à l'espagnol, quoi. Donc c'est très, très excessif, très. Bon, et
Son nom, c'est comment, tu peux répéter?
Angelica Liddell. Et sinon, bah, j'aimais beaucoup des pentes quand j'étais jeune, mais maintenant moins.
Il y a un petit personnage dans le Lloydcast qui est une petite souris. Et cette petite souris, si elle se promène chez toi ou si elle reste avec toi, qu'est-ce qu'elle va voir lorsque Fanny Caronco écrit, met en scène ou joue? Quels sont tes petits rituels, etc., etc.
Je prends un Xanax. Avant de jouer.
Le petit rituel du Xanax avec un petit prosecco.
Non, non, ça dépend de l'heure. Mais comme j'ai du spectacle pour enfants, maintenant, il n'y a plus de Prosecco. Enfin, pas la journée, ouais, le punk est très loin. Non, j'ai. Bon, ça, c'est quand je joue parce que je suis très, très, très stressée, en fait. Et en fait, c'est ça. Je pense que la petite souris, elle va bien se marrer parce que. Elle, comme les gens avec qui je travaille, qui ont bien compris qu'il faut juste me dire ça va bien se passer, ça va bien se passer. Donc elle va voir la souris, une espèce de boule de nerfs qui dit oh putain ça va pas, ça va pas, ça va pas, oh là là, oh là là, oh là là, ça va pas, oh je me sens pas bien, je vais tomber dans les pommes, voilà. Mais et donc rituel, c'est plus les copines et les copains avec qui je travaille qui vont dire non Fanny, ça va bien se passer, tout va bien se passer, voilà.
Et quand t'écris?
Ah, quand j'écris, ah bah alors là aussi, elle va bien se marrer parce que je mets la musique à fond et je pleure. Mais voilà, oui, juste le rituel quand j'écris, c'est vraiment avoir la musique et très très fort.
Est-ce que tu choisis la musique en fonction de ce que tu vas écrire? Par exemple, moi, c'est ce que je fais. En tout cas, j'ai une playlist en permanence. Enfin, j'ai des playlists pour les pièces que je vais écrire.
Oui, bah pratiquement, ouais, c'est moins, c'est pas prévu, c'est pas, mais au final, c'est ce qui se passe. J'ai, oui, selon ce que j'ai envie d'écrire, je me dis là, il faudrait un truc un peu comme ça, bah, j'ai le morceau qui va m'aider.
Tu as, depuis 2009, rencontré un metteur en scène qui est important dans, on va dire, le subventionné, qui s'appelle Georges Lavaudant.
Ouais.
Et depuis, tu travailles avec lui sur beaucoup de ses spectacles.
Ouais, je suis son assistante. Enfin, il a plusieurs assistants parce qu'il fait tellement de spectacles que une seule personne, je pense, peut pas suivre. Parce qu'il crée, il y en a un autre qui tourne et tout. Donc, on est deux, trois, je pense, à être ouais, trois. On l'assiste dans ses créations.
C'est quand même énorme parce que tu te retrouves à faire des créations à l'Odéon, ce genre de choses.
Oui, c'est génial. C'est des créations, donc il y a l'Odéon, aux Nuits de Fourvière aussi, qui est un lieu magique. Enfin, c'est en extérieur, c'est 2500 spectateurs. Enfin, voilà, effectivement, c'est un truc. Ben, là, il y a une part de schizophrénie aussi, de me retrouver là, dans des lieux comme ça, à gérer des équipes de 30 personnes sur le Cyrano de Bergerac. On était 30 en tournée, et après revenir. Avec bah à Avignon au Pitchoun, tu vois. Mais après c'est chouette, c'est en dehors de toute l'admiration que j'ai de parce que moi c'était vraiment un des metteurs en scène que j'aimais le plus quand j'étais en école de théâtre. Enfin il m'apporte plein de choses de par rapport au travail des lumières, par rapport à comment diriger les acteurs, parce il est hyper. Alors c'est marrant parce qu'il est vraiment. Je suis complètement à son opposé. C'est quelqu'un de très pudique qui dit le minimum de mots et même par rapport à ses comédiens, quoi. Il va vraiment leur dire une phrase ou deux à la fin de la représentation, mais il n'est pas du tout dans l'excès comme moi je peux l'être. Et du coup, c'est assez fascinant pour moi de le regarder, quoi. Juste voir comment il fait. Avec sa petite voix là, toute tout calme, tout. Puis un souci du détail, mais hallucinant, quoi. Enfin, tous les lumières, les. Et puis, ça permet aussi de rencontrer des comédiens sympas qui, après, peuvent travailler avec moi aussi parfois. Donc, c'est chouette.
Et justement, comment tu parles de la direction d'acteur, de la mise en scène, comment tu travailles toi en tant que metteur en scène? Est-ce que tu élabores ta mise en scène bien en amont ou est-ce que c'est quelque chose qui vient selon les acteurs que tu as ou selon, voilà, est-ce que tu improvises des choses?
Bah, il faut pas que les acteurs entendent ce que je dis. Non, mais c'est complètement improvisé, hein. Je fais semblant de savoir, mais non, j'improvise. Après, j'ai une idée quand j'écris, mais après tout le reste est en impro sur le moment. Parce que l'acteur va faire un truc, ça va te faire penser à autre chose, et puis c'est un échange. Par contre, enfin ça c'est pour les tout ce qui est pour les, j'allais dire pour les actions, pour les. Mais dans le personnage et dans l'intention, dans l'intention et dans la manière dont j'aime que les acteurs jouent là, par contre, je sais vraiment ce que je veux et j'en démords pas.
Et est-ce que tu le montres, est-ce que tu le joues,
Ah ouais, non, ça je fais jamais ça. Enfin, si, à la limite, je vais faire pour un déplacement quand vraiment, genre un double take ou un truc, quand des trucs hyper précis, ça, bien sûr, je vais le montrer. Mais non, dans le texte, dans la manière de dire le texte, non, moi le seul truc que je leur dis, c'est en plus souvent quand j'écris, je pense à tel ou tel acteur, donc je leur dis voilà, c'est écrit pour vous, juste ne faites rien, quoi. Enfin, juste soyez vous-même, et puis ça passera.
Il y a, dans tout ce que tu as écrit, dans tous les projets que tu as fait, il y a un projet qui a cartonné, enfin je crois qu'il existe encore, c'est La Mulâtresse Solitude.
Ah
Et
bah
ça,
oui.
c'est un énorme projet, si tu pouvais en dire davantage, parce que là, pour le coup, c'est une adaptation, c'est ça?
Oui, alors c'est une adaptation, c'est pas trop à la base dans mon univers. Mais il y a des passerelles, quoi, quand même. Parce que c'est en fait un roman d'André Schwarzbart qui s'appelle La Mulâtresse Solitude et qui raconte la Guadeloupe, ce qui s'est passé en Guadeloupe quand Napoléon a rétabli l'esclavage. Donc c'est un texte historique, politique très 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 engagé. Et c'est sur le parcours d'une femme. Donc, qui est la mulâtresse Solitude, qui a été une des figures de résistance au rétablissement de l'esclavage. Donc, en fait, j'avais envie de, pour une fois, au lieu de parler de ma révolte à moi, de parler d'une vraie révolte politique et concrète, et puis que ce soit celle d'une femme aussi, je trouvais ça bien. Et puis le texte est magnifique aussi, j'avais envie de voir comment je pouvais faire une mise en scène avec des textes qui sont enfin, un texte qui est pas de moi, et comment je pouvais réussir à glisser mon univers là-dedans.
Et comment tu l'as abordé justement cette mise en scène? T'avais l'idée de la comédienne qui allait jouer, tout ça?
Ouais, j'avais la comédienne, j'avais le comédien, donc, enfin, j'avais les deux comédiennes, j'avais deux comédiennes et un comédien, je savais que c'était avec eux que je voulais bosser, et donc j'ai fait l'adaptation. Donc j'ai pas écrit du tout, mais du coup l'adaptation m'a permis de m'approprier quand même pas mal le texte aussi et de choisir aussi en fonction des acteurs quoi. Parce que comme c'est un roman, j'ai surtout coupé énormément. Enfin j'ai pris des extraits du roman pour les remettre dans une autre forme plus théâtrale et plus courte du coup. Mais moi je savais qui c'était, je savais pourquoi c'était ces passages-là qu'il fallait qu'ils jouent.
Et ça, vous l'avez joué au Festival d'Avignon.
Ouais, on a fait Avignon, on est parti
Ensuite en Guadeloupe.
en Guadeloupe, Martinique,
Ça, c'est une aventure
Saint-Barth.
géniale.
Ah, c'était super. Surtout en Guadeloupe, c'était très très fort parce que ça parle vraiment de l'histoire de la Guadeloupe et c'est une histoire dont, ben, voilà, en France, on n'en parle pas trop. Et même en Guadeloupe, c'est pas quelque chose qui est souvent montré. Donc du coup, enfin, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que les gens étaient touchés. Dans quelque chose d'intime, quoi. Donc ça, c'était cool. Et on a fait Paris aussi. On était à la Grande Halle de la Villette. C'était assez des conditions là, assez, de travail assez extraordinaires.
Est-ce que tu as une grande ambition à un moment d'être connu par on va dire, le milieu parisien? Est-ce que tu te sens plus de l'ordre du théâtre privé que de l'ordre du théâtre subventionné?
Bon, bah après, je sais pas trop. Moi, j'ai l'impression, je voudrais faire du théâtre underground. Du théâtre indépendant. Non, mais j'aimerais bien. Tu vois, comme ça se passe un peu avec le cinéma, enfin, tout ce qui, enfin, il n'y a pas ça dans le théâtre. c'est forcément soit privé, soit public, mais t'as pas de troisième voie, parce que le théâtre privé correspond à des exigences économiques aussi, donc tu peux pas faire, tu peux pas, les gens prennent pas trop de risques, ils prennent pas de risques non plus dans le théâtre subventionné pour d'autres raisons, mais ouais, faire du théâtre underground et indépendant.
Alors, ça existe un petit peu quelque part, parce que le réseau des toutes petites salles de 50, 60, 70 places à Paris, il y a quand même pas mal de théâtres qui existent là-dessus, mais qui fonctionnent sur un format économique qui est hyper casse-gueule, parce que c'est de la loge déguisée qu'on appelle donc de la co-réalisation, et genre tu payes 100, 150, 200 euros par soir, et après la recette est partagée, etc. Donc ça c'est une possibilité de faire entre guillemets du théâtre underground comme tu dis, mais économiquement c'est assez compliqué.
Oui, après oui, je te dis underground, c'est vrai que je dis ça, on est quand même en train d'essayer de chercher des subventions pour pouvoir payer les acteurs. Là, on a ça, la chance que qu'on a, c'est que maintenant on a quelques appuis aussi. Tu vois, là, c'est l'IDAM qui nous aide maintenant quasiment à chaque fois. Enfin, voilà, il y a des théâtres aussi qui m'accueillent, comme la scène nationale d'Annecy qui m'a où j'ai pu créer deux de mes spectacles déjà là-bas. Donc ça voilà, je tends plus quand même vers le théâtre subventionné, mais c'est pas des choix
Et justement,
forts.
ton actualité en ce moment, à l'heure où on enregistre cet épisode, on est le 15 avril, et je sais que que t'es en pleine résidence de ton prochain spectacle.
Ouais, que je joue demain à Montpellier. Ah ben voilà, là justement dans un théâtre vraiment underground à Montpellier qui s'appelle le Théâtre de la Plume. Et le spectacle s'appelle Une histoire du rock'n'roll. Et c'est en fait c'est l'histoire du rock racontée aux enfants. Enfin, mais ça c'est le prétexte en fait. En gros c'est une histoire de famille entre une mère et sa fille et voilà, et la mère qui a 40 ans, qui vieillit, qui voit sa fille grandir et qui se raccroche à sa musique et à la musique de sa jeunesse et qui aimerait bien que sa fille aime ça aussi.
Et ça fait combien de temps, ça fait combien de temps que tu es en résidence sur ce spectacle?
Là, on a fait en tout 4 semaines de résidence. Les résidences pleuvaient dans tous les sens. On est parti, là, on a fait une petite semaine de résidence à côté d'Avignon, dans un chouette théâtre qui s'appelle Viens voir à Tavel. Et on a fait 15 jours au studio de Vircourt à côté de Poitiers. On a fait une semaine à Montpellier ou chez Duterral, enfin voilà, dans plusieurs lieux. Et du coup, bah, je pense que c'est la première fois que je vais attaquer un spectacle en me disant, bon, je crois qu'on est prête là.
J'ai une citation pour toi, tu vas me dire de qui elle est, ok?
Ouais.
C'est facile de tomber dans un flux dépressif quand on regarde l'inutilité de l'existence.
Oh, qui c'est qui aurait pu dire ça? Ça demande toi?
Alors, c'est vrai qu'à des moments, je pourrais dire un truc pareil. C'est le même qui a dit de manière assez comique, le rouge à lèvres, c'est juste parce que j'ai pas de bouche, ça permet de repérer où elle se trouve.
C'est Robert Smith.
Bah oui, c'est Robert Smith, bien sûr.
Ah, en plus, c'est pas vrai, c'est pas du tout pour ça. C'est parce qu'il voulait copier Siouxsie and the Banshees. Il a commencé à se maquiller quand il a joué avec elle.
Oui, tout à fait. Est-ce que t'as jamais, enfin, bon, tu l'as vu en concert?
Oui, je l'ai jamais vu en vrai.
Ouais, tu l'as jamais rencontré.
Non, mais je
Est-ce que
l'espère
t'aurais
pas
envie
trop.
de le rencontrer ou est-ce que t'aurais peur de le rencontrer?
Ah, mais je le rencontre et je peux mourir le lendemain ou dans la minute qui suit, en fait. Ah oui, c'est le. Je vais pas dire. Oui, c'est le fantasme de ma vie. Pas un fantasme sexuel, hein, parce que. Enfin, c'est Robert Smith, quoi. Mais oui, tu sais, c'est le truc où effectivement tu dis si jamais ça se produit, bon bah après quoi faire d'autre, quoi. Tu vois?
Ouais. Quel est le but derrière, quoi?
Ouais. C'est tellement le ouais, le rêve, le truc inaccessible, que si tu l'as, bah bah tu rêves plus.
Alors on termine avec quelques petites questions et tu vas me donner quelques petites réponses bah comme ça, à la volée. D'accord? Si tu gagnes au loto, c'est quoi ta réaction?
Bah, je suis contente.
Alors, est-ce qu'il y a un livre, est-ce qu'il y a un film, est-ce qu'il y a une chanson, est-ce qu'il y a de l'ordre de l'artistique, une peinture qui a changé ta vie?
La pitié dangereuse de Stefan Zweig.
Si tu n'écrivais pas, si tu ne mettais pas en scène, si tu ne jouais pas, tu ferais quoi?
J'aurais un bar à mojito sur une plage.
Quel est ton plus bel échec?
Mon couple.
Allez, une autre pièce. Quel est ton endroit préféré au monde?
Le wagon bar.
Est-ce que tu sais ce que c'est un motto?
Non.
C'est un mot anglais, en gros, on va dire que c'est en gros la devise, la motivation au quotidien. Est-ce que t'as un motto, toi?
Non. Je me laisse porter.
Ben c'est bien, c'en est un.
Ouais, voilà.
Et enfin, quel est ton mot préféré?
J'aime bien emmerdement. Je trouve ça joli. Un emmerdement. Puis c'est mignon. C'est comme un petit souci, tu vois, petit emmerdement. Et petit, mais j'écris petit tout le temps. J'aime bien ce mot. Un petit emmerdement. Voilà.
Pour suivre ton actualité, on fait comment?
Eh ben, j'ai une page Facebook de ma compagnie. J'ai mis le nom de ma compagnie, mais en gros, c'est ma compagnie, ma vie, mon œuvre. Hein. Donc, c'est la Grande Horloge
La Grande Horloge, c'est par rapport à Avignon?
Non, c'est par rapport à la gare de Lyon. Mais parce qu'il y a une grande horloge à la gare de Lyon.
Oui,
Et
bah
puis
j'habite à 100 mètres, donc je vois très bien.
voilà, bah c'est par rapport à ça. Et puis c'est aussi un peu plus glauque sur la grande horloge, le temps qui passe et le fait qu'on va tous mourir.
Si vous voulez passer une excellente soirée avec quelqu'un qui vous mettra une ambiance de feu, vous demandez à MC Fanny Caranco, ça va vraiment décaper.
Voilà.
Quelle va être l'actualité dans les 2-3 mois à venir?
Eh ben, le 14 mai, c'est grosse pression. Je fais lire ma prochaine pièce, que j'espère sera ma prochaine pièce, à la MC93 à Bobigny. Donc toutes les infos sur le site de la MC93. Et la pièce s'appelle La liberté est une légende urbaine.
Génial. En revanche, je te félicite pas parce que je trouve que c'est vraiment dommage qu'on puisse pas lire tes textes sur une édition. Je suis sûr qu'il y a plein de maisons d'édition qui seraient très très heureuses de t'accueillir parce que tes textes sont de super qualité et j'ai vraiment très envie que les gens qui écoutent ce podcast puissent un jour lire vraiment tes textes parce que moi c'est des choses qui c'est vraiment des textes qui m'ont mis la tête à l'envers, que j'ai trouvé vraiment formidable. T'as une écriture qui est dense, qui est forte, qui est violente, qui est véritable, et je trouve j'ai envie de t'engueuler parce que je trouve ça vraiment dommage que tu ne gardes ça que pour toi.
Ah ben, j'ai essayé de me secouer un peu alors et d'envoyer plus de textes.
Bon,
Voilà.
essaye et puis on fera l'objet d'un ça fera l'objet d'un autre épisode, ou en tout cas je m'en ferai l'écho.
Ah ben, super. Merci.
Bon, merci en tout cas à toi Fanny d'avoir accepté cette invitation pour parler un petit peu de tout ça.
Ah ben non, merci, c'était super.
Quant à toi, la compagnie, surtout n'hésite pas à commenter une nouvelle fois cet épisode là où tu l'auras entendu, pardon. Abonne-toi sur iTunes, sur PodCloud, n'importe où que tu auras où tu auras entendu cet épisode, y compris aussi sur mes réseaux sociaux, tu peux le commenter. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode, l'épisode 9, on arrive bientôt au 10. Et d'ici là, porte-toi bien. Salut, la compagnie.